9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Nous sommes à Stockholm, capitale du royaume de Suède, le 10 décembre 1911. En décembre, le mercure monte difficilement au-dessus de zéro et les rayons du soleil ne parviennent pas à réchauffer les immeubles de ce qu'on appelle la Venise du Nord. C'est une des Venises du Nord. Sur les bords du Nordström se dresse le grand hôtel et devant le porche de ce bel établissement, une voiture. Sur les coups de 8 heures du soir, trois personnes sortent de l'immeuble et se dirigent vers ce véhicule qui les attend. Ce sont trois femmes qui ont chacune revêtu sa plus belle robe. La première, c'est Marie Curie. La deuxième, sa grande sœur, le médecin Broniad Luska. Et puis, la fille de Marie, Irène, qui ne s'appelle pas encore Joliot-Curie, évidemment, puisqu'elle n'a que 14 ans. Elles se rendent à l'Académie royale suédoise de musique où on les attend pour une raison que vous devinez. Marie Curie doit recevoir le prix Nobel de chimie. Et devant tous les académiciens réunis, elle a d'abord un mot pour son mari, Pierre, qui est décédé 5 ans plus tôt. Et puis elle déclare « Qu'on me permette en outre d'exprimer la joie que je ressens en pensant à la radioactivité. La découverte des phénomènes radioactifs ne date que de 15 ans. La radioactivité est donc une science très jeune. C'est un enfant que j'ai vu naître et que j'ai contribué de toutes mes forces à élever. L'enfant a grandi, il est devenu beau. La radioactivité est une science nouvelle qui a des rapports très étroits avec la physique et la chimie, mais qui n'en est pas moins absolument distincte. Elle a 44 ans, Marie, elle se tient fièrement devant cette Académie royale. Le roi Gustave V est présent en personne pour lui remettre ce prix Nobel. C'est la deuxième fois qu'elle le rencontre d'ailleurs, puisque c'est la seconde fois qu'elle reçoit un Nobel. Elle avait été la première femme à recevoir ce prix en 1903 en physique, conjointement à l'époque avec son mari Pierre et avec Henri Becquerel, justement pour les travaux sur la radioactivité. Et elle devenait, en 1911, la première personne au monde à avoir 2 prix Nobel. Ils ne sont que 5 aujourd'hui à pouvoir se vanter de cela. Marie Curie devient donc une icône du monde scientifique. La question qui se pose, et celle que nous allons essayer de résoudre aujourd'hui, c'est de savoir qui elle est au fond et d'où elle vient.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et là, il faut remonter 40 ans plus tôt, se rendre dans l'Est de l'Europe, en Pologne, pour retrouver la jeune Marie Curie. En cette deuxième partie du 19e siècle, le royaume de Pologne n'est plus que l'ombre de lui-même. Après le congrès de Vienne de 1815, ce royaume a été créé. Seulement, le roi de Pologne, c'est le tsar et la souveraineté polonaise, il n'y en a pas. En 1863-1864, donc 3 ans avant la naissance de Marie Curie, il y a eu ce soulèvement qui a embrasé les provinces polonaises. Le conflit dure près d'un an et demi et il marque les consciences polonaises. Même, d'une façon générale, il va marquer toute l'Europe. On compte entre 20 000 et 30 000 Polonais qui sont tués. Près de 40 000 partent en exil et beaucoup sont également déportés, sont condamnés aux travaux forcés. Le pouvoir russe serre les boulons. Le peu d'autonomie que possédait la Pologne est réduit à peau de chagrin. Et c'est dans cette Pologne-là, à Varsovie, que la famille Skłodowska s'agrandit, puisque les parents de Maria, en polonais, sa mère, Bronisława, et son père, Władysław, n'ont pas pris part directement à la révolte. Ils subissent la politique répressive. Le père est prof de maths, la mère est institutrice, elle va devenir proviseur. Marie est la petite dernière de cette famille de 5 enfants. Elle a donc 3 sœurs et 1 frère. Avec un environnement assez stimulant pour cette petite fille qui montre des capacités intellectuelles assez particulières et incroyablement précoces. C'est tellement précoce que ça inquiète un peu les parents. Il y a une sœur de Marie qui s'en souvient, Elena. Elle dit « Dans mon souvenir, je revois notre petite Maria, une fillette un peu dodue, aux beaux cheveux bouclés retenus par un ruban de velours noir, portant un tablier garni de volants. Ses yeux étaient gris pâles et regardait le monde avec un sourire, une gentillesse et un sérieux inhabituels. Bien que la plus jeune de sa classe, son intelligence hors du commun, ses capacités, sa grande mémoire influençaient ses camarades. Toutes ses amies la respectaient et lui demandaient souvent son aide en mathématiques ou dans d'autres matières difficiles. » À l'école, vous avez bien compris qu'elle est, c'est la première de la classe. Qu'est-ce que vous voulez? Ça va d'ailleurs être très utile, ça, je vous explique. Avec le renforcement de la présence russe, le pouvoir du tsar a interdit l'enseignement de l'histoire polonaise et l'instruction de la langue polonaise. Mais l'école dans laquelle se trouvent Marie et ses frères et sœurs fait de la résistance et en cachette, les professeurs enseignent les matières interdites. L'histoire des rois de Pologne, de Stanislas Poniatowski, de la volonté de Napoléon de créer une Pologne souveraine, on leur apprend tout ça. Et puis la langue polonaise. Et lorsqu'un inspecteur russe, bien sûr, arrive à l'improviste dans l'école, les élèves doivent vite ranger toutes leurs affaires polonaises et remplacer tout ça par des livres, des grammaires et des choses russes. Et quand l'inspecteur interroge les élèves, qui le professeur désigne-t-il systématiquement pour répondre ? La petite Maria Skłodowska. La fille de Marie Curie, Ève Curie, a écrit la biographie de sa mère. Elle avait beaucoup échangé avec sa mère sur son enfance et elle a voulu en faire un livre aussitôt après le décès de Marie Curie. Et voilà comment elle décrit sa mère face aux inspecteurs russes dans son école. Elle a 10 ans à l'époque, la petite Maria Skłodowska. Sur le seuil, sanglé dans son bel uniforme, pantalon jaune et vareuse bleue à boutons luisants, paraît Monsieur Hornberg, inspecteur des pensionnats privés de la ville de Varsovie. C'est un homme épais, tondu à l'allemande, le visage est gras, les yeux sont perçants derrière des lunettes à monture dorée. Sans dire un mot, l'inspecteur regarde les écolières, 25 filles, bras croisés, elles sont assises, immobiles, toutes pareilles dans leurs robes sombres à col blanc. Monsieur Hornberg accepte la chaise que lui offre la maîtresse et s'assoit lourdement. « Veuillez appeler une de ces jeunes personnes », dit-il. Et au troisième rang, il y a Maria qui détourne instinctivement vers la fenêtre sa petite figure crispée. « Oh non, mon Dieu, faites que ce ne soit pas moi, on imagine, hein, cette petite fille. » Et en fait, elle sait bien que ce sera elle que pour l'interrogatoire de l'inspecteur du gouvernement, c'est toujours elle qu'on désigne parce qu'elle est la plus savante et qu'elle connaît le russe parfaitement. Et quand on l'appelle, elle entend son nom, elle se dresse. Une honte affreuse lui serre la gorge, nous dit Ève Curie. Ta prière, jette Hornberg, dont l'attitude exprime l'indifférence et l'ennui. D'une voix neutre, Maria récite correctement à notre père une des humiliations les plus subtiles qu'a découvertes le tsar et d'obliger les enfants polonais à dire chaque jour en russe les prières de la religion catholique. Ainsi, prétendant respecter leurs croyances, on leur fait profaner ce qu'ils vénèrent. Alors, de nouveau, c'est le silence, et l'inspecteur va poser des questions. Forcément, il est là pour ça. Quels sont les tsars qui ont régné depuis Catherine II sur notre Sainte Russie ? Alors, Catherine II, Paul Ier, Alexandre Ier, Nicolas Ier, Alexandre II. Bon, l'inspecteur est satisfait, l'enfant a bonne mémoire, elle a un joli accent, elle pourrait être née à Saint-Pétersbourg. Dis-moi les noms et les titres des membres de la famille impériale. Sa Majesté l'impératrice, Son Altesse impériale, le tsarévitch Alexandre, Son Altesse le grand bon. Et à la fin de l'énumération, qui est longue, Hornberg a un sourire, c'est très bien. L'homme ne voit pas le trouble de Maria, ses traits durcis par l'effort pour dissimuler ce qui, au fond, est une vraie révolte chez cet enfant. Qui nous gouverne ? Demande-t-il. Pour cacher le feu de leur regard, nous dit Ève Curie, la directrice et la surveillante s'absorbent dans la contemplation des registres qu'elles ont devant elles. La réponse ne venant pas assez vite, Hornberg, agacé, répète un peu plus fort « Qui nous gouverne ?»« Sa Majesté Alexandre II, tsar de toutes les Russies », articule Maria. Mais alors, la pauvre chérie, elle est blême, c'est dur pour elle. Bon, la séance est terminée, le fonctionnaire peut quitter son espèce de trône, sa chaire, et après un bref salut, il sort de la salle et à ce moment-là, la maîtresse relève la tête. « Viens ici, ma petite âme, » dit-elle. Maria sort de son rang, raconte sa fille, s'approche de la maîtresse qui, sans rien dire, l'embrasse sur le front et brusquement, dans la classe qui reprend vie, l'enfant polonaise, à bout de larmes, à bout de nerfs, fond en larmes. Thank you. une célèbre mazurka de Frédéric Chopin par Nelson Frère. C'était, vous savez, cette musique qui accompagnait la merveilleuse pièce de Jean-Noël Fenwick, Les Palmes de Monsieur Schultz.
Vous écoutez Radio Classique.
Alors, la résistance polonaise a dans la vie de la famille des Sklodowska une grande place, vous l'avez compris. Le père, souvent, prend un livre et lit à ses enfants des pages de la littérature polonaise. Mais il y a quand même cette surveillance russe qui pèse sur les parents. Et je vous ai dit que la mère de Marie était devenue proviseur. Elle va décider d'arrêter de travailler pour se consacrer à ses 5 enfants. Quant au père, Vladislav, il est démis de ses fonctions. Il va devoir accepter un nouveau travail dans un autre collège, ce qui force la famille à déménager à l'ouest de Varsovie, dans un logement, alors là, qui est nettement moins luxueux, hein, et qu'il faut partager avec des étudiants. Enfin bon. Vladislav, le père de famille, souhaite être présent dans le processus d'éducation des enfants. Le frère de Marie, Joseph, dira « Notre père se préoccupait de notre santé, de notre développement physique, de nos études et même de nos loisirs en essayant de nous donner des idées d'activité et de jeu. » Mais il y a cette nouvelle qui va assombrir le destin de la famille puisque la mère tombe malade, Bronislava. C'est une maladie sévère, c'est la tuberculose. Et elle a beau aller souvent en cure, son état ne s'arrange pas. Souvent, elle laisse la famille seule. À Cracovie, Bronislava emporte toujours avec elle une photo de ses 5 enfants. Et c'est ainsi que pendant près de 2 ans, elle va rester loin de là, dans le sud de l'Autriche. Elle avait donné une éducation très catholique à ses enfants. Mais quand elle meurt en 1878, on peut dire que Marie, qui a 11 ans à l'époque, hein, a largement perdu la foi. La mort d'une mère, c'est un événement qui bouleverse complètement une petite fratrie comme ça, une famille. Vous imaginez, Marie plus tard dira « Cette catastrophe fut le premier grand drame de ma vie. Ses effets sur moi furent immenses car l'amour naturel d'une petite fille pour sa mère était doublé chez moi d'une admiration passionnée. Pendant des années, la perte de celle qui fut l'âme de notre foyer allait peser lourdement sur nous. » Et la famille est toujours dans cette espèce de pensionnat. Le frère Joseph raconte « Lorsque nous rentrions de l'école, nous déjeunions tous ensemble, nous étions une 20aine environ. Le moindre recoin de notre appartement était peuplé d'étudiants. Chaque chambre accueillait plusieurs élèves. Certains travaillaient en silence, mais d'autres récitaient leurs leçons à voix basse. Et d'autres encore étaient si bruyants qu'il fallait constamment leur demander de parler moins fort. » Et comme si tout ça ne suffisait pas, la plus grande des sœurs de Maria, Zosia, va mourir du typhus, en partie à cause de cette proximité-là qui existe, cette promiscuité même, disons, qui existe dans le foyer familial. Ces maladies, ces morts à répétition vont expliquer pourquoi 3 enfants de la famille choisiront la médecine comme profession. On est médecin chez les Sklodowsk. Marie se réfugie dans les études. Elle excelle dans toutes les matières. Elle est constamment première de la classe, vous l'aurez compris. Et à 15 ans, quand elle termine son cycle secondaire, elle est affublée de la médaille d'or. On est là en 1883. En Pologne, les études supérieures sont interdites aux femmes. La sœur de Marie, Bronia, est partie pour Paris faire des études de médecine. Et Marie a bien l'intention, elle aussi, de gagner, si elle le peut, la capitale française. Seulement, pour ça, il faut rassembler une certaine somme d'argent. À 16 ans, elle devient jeune fille au pair dans une famille polonaise et son objectif, vous l'aurez compris, c'est d'aller un jour à Paris. Laurent Martin, au piano, interprétait cette romance sans parole de Mel Bonis.
Franck Ferrand, sur Radio Classique.
Alors, en parallèle à son emploi de jeune fille au pair, Marie, qui ne porte toujours pas, je veux dire, le nom de Curie, évidemment, hein, c'est toujours Marie Slodowska, va s'inscrire à l'université Volante. C'est une école clandestine, en fait, créée par tous les professeurs polonais qui ont été renvoyés par le pouvoir russe et qui sont pas assez dociles pour être maintenus dans le système d'éducation sous contrôle russe. Marie s'y rend la journée pour suivre ses cours réservés aux femmes qui portent sur un grand nombre de matières, littérature, anatomie, sociologie, physique, mathématiques, chimie. Et c'est au cours de ces années-là qu'elle décide donc de se consacrer aux études scientifiques avec un élément qui va changer le cours des choses et qui aurait pu être beaucoup plus déterminant même puisqu'elle tombe amoureuse du frère aîné des enfants dont elle s'occupe. Il s'appelle Kazimierz et lui aussi est amoureux de Marie. C'est un bel amour réciproque. Ils ont bien l'intention de se marier. Seulement, vous imaginez bien que les parents de Kazimierz ne sont pas du tout d'accord pour que leur fils épouse une jeune fille au pair d'extraction si modeste. Et au même moment, le père de Marie lui écrit une lettre pour lui dire combien il est triste de ne pouvoir aider davantage sa fille dans ses projets. Voici ce qu'elle lui répond. « Avant tout et par-dessus tout, que mon père bien-aimé cesse de se désoler à l'idée qu'il ne peut nous aider. Il serait inconcevable que mon père fasse pour nous plus qu'il n'a fait. Nous avons une bonne éducation, une solide culture, des caractères qui ne sont pas les pires que l'on puisse voir. Alors, que mon père ne perde pas courage. » Entre parenthèses, vous voyez l'extrême politesse qui consiste à s'adresser à son père à la troisième personne. « Nous nous tirerons d'affaire sûrement. En ce qui me concerne, je serai éternellement reconnaissante à mon père chéri de ce qu'il a fait pour moi, car il a fait énormément. » Et durant le mois d'août 1891, Marie, qui n'a pas pu épouser celui qu'elle aime, fait ses comptes. Elle compte ses roubles, elle en est sûre. Ça y est, maintenant, elle a assez d'argent pour aller vivre chez sa sœur à Paris.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Début du mois de septembre 1891, elle est à la gare de Varsovie. Elle s'apprête à parcourir 1500 kilomètres en 44 heures. Pour tuer le temps, elle a tous ses livres, ses nombreux livres, mais surtout, elle a un petit livret qui décrit la licence de physique de la Sorbonne. Et lorsqu'elle pose le pied à Paris, elle connaît par cœur la liste des cours et des professeurs. Elle saute dans les bras de sa sœur, Bronia. Celle-ci habite à Paris avec son mari polonais. Elle est enceinte de 6 mois lorsque Marie arrive dans la capitale française. Et c'est donc chez sa sœur qu'elle va vivre pendant toute la première année, dans un petit appartement qui n'est pas loin de la gare du Nord. C'est quand même incroyable, cette gamine qui connaît la Sorbonne quasiment comme sa poche avant même d'y avoir posé un pied. Mais voilà, ça c'est cette espèce de passion qui permet de tout renverser. Et au niveau, pour ce qui est de la langue, Marie parle couramment français, donc elle n'aura pas de mal à s'intégrer. En tout, elle maîtrisera 5 langues d'ailleurs. Le polonais, c'est bien évident, et le russe, mais aussi l'allemand, l'anglais et donc le français. Marie va fêter quand elle entre à la Sorbonne. Pour la première fois, on est le 7 novembre 1891, elle a tout juste 24 ans. Il est temps pour nous de la laisser maintenant vivre sa vie, poursuivre son invraisemblable carrière, faire ses rencontres fantastiques, notamment bien sûr celle de Pierre Curie. La suite, j'ai envie de dire, vous la connaissez mieux, mais il me semble qu'il n'était pas inintéressant de voir d'où tout cela pouvait venir.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci à Jean-Baptiste Galen pour avoir préparé cette émission de ce matin. Et bonjour à Christian Morin.
Bonjour mon cher Franck. Nous avons un David Abiker qui est dans le studio parce qu'il a égaré ses binocles.
J'ai perdu mes lunettes.
Mais ça va revenir. En fait,
on va se mettre tous à aller chercher.
On ne le dirait pas quand on voit ce beau jeune homme. On se dit, mais comment peut-il porter des lunettes? J'ai regardé sous la table.
À mon avis, ce sont des lunettes de pure coquetterie.
Je le dirais par rapport à Franck, on ne va pas en faire une histoire, si j'ose dire. Mon cher. Non mais de toute façon, tu peux compter sur nous, David. Si on les retrouve, je t'appelle immédiatement. À demain matin. Pour vous deux d'ailleurs. Bonjour mon cher Franck. Alors, beaucoup de choses à vous dire. Marie Curie, il y a eu, il y a 4-5 ans à peu près de mémoire, une exposition formidable au Panthéon.
Oui, bien sûr.
Dans l'entrée du le grand hall du Panthéon. Et c'est une belle histoire une fois de plus. Alors cet après-midi, on va changer de registre puisque ce sera Pauline Bonaparte à Saint-Domingue.
Voilà.
Un autre rendez-vous pour une autre histoire. Juste une question, je m'adresse là, pardonnez-moi madame, mademoiselle, monsieur, mais au comédien qui était sur la scène du théâtre Antoine.
À l'apprenti comédien.
Oui, mais enfin, quand vous êtes sur scène, vous êtes un comédien. De toute façon, ce n'est pas la première fois que vous racontez l'histoire sur scène en jouant le jeu du comédien et non pas du narrateur simple. Donc, avec Garance Bokobza hier soir, question simple. Comment ça s'est passé cette
première ? Ça s'est bien passé. Vous savez, ce sont des moments fébriles extraordinaires et quand vous entendez la salle crépiter d'un seul coup, vous dites que le pari est réussi.
Vous savez ce qu'on dit au théâtre, ça m'est arrivé aussi souvent avec Jean-Laurent Cochet, la première va bien, attention à la deuxième. Oui. Ne soyons pas trop confiants et quelquefois c'est la troisième qui se déroule beaucoup mieux. Oui, je rappelle que vous êtes jusqu'au 29 décembre, on aura l'occasion d'y revenir. Bonne soirée ce soir.
En train de me dire qu'il faut que j'aille répéter tout de suite là.
Non, je n'ai pas dit ça, je veux dire simplement que n'oubliez pas que vous avez rendez-vous à 18h ce soir au théâtre pour être en forme. Oui. À 19h, oui, mais on arrive toujours un petit peu avant. Parce que vous savez, je ne voudrais pas jeter de pierre à quiconque, la circulation de Paris est quelquefois compliquée.
Ah bon ?
Oui. À demain et à 14h bien sûr. Passez une bonne journée, Franck.